relancer l'enregistrement, voir si ça marche. A priori, c'est parti. Petite présentation de Nicolas. Après, je te passe la parole et puis on aura un petit temps d'échange, questions-réponses. Vous pouvez soit prendre le micro, soit tenter par le chat et j'essaierai de compléter les questions, de les regrouper. Bon, tout d'abord, merci beaucoup Nico Nicolas d'être présent. Alors, je vais dire Nico, désolé, on se connaît en dehors du champ universitaire, donc c'est pour ça que je risque de riper quelquefois. La bienséance voudrait que je vous appelle le cher monsieur Nicolas Gracio, mais je ne vais pas y arriver. Bon, voilà, pour présenter Nicolas en quelques mots, vous avez pu le lire, j'ai fait une erreur, il est directeur de recherche, mais pas au CNRS, mais à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Nico, il exerce à l'Institut des géosciences et de l'environnement, où il occupe également la fonction de directeur adjoint. Et tu me corriges, Nicolas, si je dis des bêtises. Donc, tu as travaillé pendant 10 ans en expatrié, en fait, principalement sur l'érosion j'ai lu, hein, l'érosion des côtes amazoniennes en Guyane avant de te spécialiser sur les flux de sédiments cohésifs dans les rivières et barrages du Mexique et du Vietnam. On verra avec toi si c'est à ce moment-là que cette conscience climatique et donc l'idée de cet atelier a émergé. En tout cas, voilà, c'est depuis 2020, début 2020, je crois, que vous avez eu à quelques-uns l'idée de mettre en place cet atelier collaboratif et qui a déjà permis de former ou d'accueillir plus de 500 personnes. Et si j'ai bien compris, l'objectif est d'un déploiement dans le courant de l'année et l'année suivante à échelle bien plus grande, plusieurs milliers de participants. Voilà, Nico, je te laisse la parole. Bon séminaire à tous.
Ouais, merci beaucoup Sébastien. Merci aussi j'avais pris connaissance du travail qui avait été réalisé, qu'avait présenté Sébastien sur tout votre engagement autour des questions de transition socio-écologique. Donc, je sais qu'à l'Institut Néel, il y a des personnes précises et qui s'impliquent dans la dynamique. J'imagine que comme dans d'autres nombres d'établissements, le sentiment des gens, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux pour porter cette dynamique. Je vais essayer de vous présenter. Donc moi, je ne suis pas issu ni des techniques de changement de comportement, ni des jeux sérieux. Hein. Je suis physicien à la base sur la dynamique côtière, comme on vous l'a dit. Mais au fur et à mesure, en fait, notamment la dernière expérience de vie, 4 ans au Vietnam, m'a quand même conduit à considérer que c'était pertinent de passer une partie de notre énergie scientifique à accompagner jusqu'à la capacité à avoir une recherche qui soit un peu frugale ou en tout cas optimisée en coût-bénéfice entre nos émissions et les résultats qu'on prodigue et qu'on propose à la société. Alors, je vais essayer d'avoir une intervention plutôt courte sur l'exposé et puis derrière de répondre à vos questions. Déjà aussi dans le fil de discussion, si vous voulez bien marquer pour ceux d'entre vous qui auraient connaissance de ma thèse, qui l'auraient déjà fait, ce sera pour moi un petit curseur sur le temps à consacrer sur les différents éléments. Alors, je vais te demander le partage d'écran, Sébastien, si tu veux bien. Donc, a priori, personne n'a fait l'atelier ou ne le connaît. Donc, c'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que c'est un terrain vierge à conquérir. J'espère que vous aurez plein de questions critiques et pertinentes à mon égard. Je tiens aussi, je dis à mon égard, mais à notre égard, je devrais dire, parce que c'est un travail qui a vu jour vraiment dans une logique d'un collectif et sans lequel rien n'aurait été réalisé.
Normalement, tu as la main, Nicolas.
OK. Alors, voilà. Donc ma terre, en fait, c'est à notre connaissance, hein, mais de ce qu'on a pu essayer de suivre dans la littérature, le premier outil collaboratif qui a été proposé par et pour le monde académique sur la question précise en fait, sur la question ou sur l'injonction qui conduit à une question, le monde scientifique au travers du GIEC, au travers de l'IPBES, ne manque de rappeler que le système planétaire a des limites et qu'on les outrepasse. Et donc, il serait peut-être logique et cohérent que la communauté qui prodigue des pistes de réduction, réfléchissent à se les appliquer. Donc c'est un petit peu le point d'entrée et en se disant aussi que si les chercheurs, enseignants-chercheurs, techniciens, une sphère assez gâtée au niveau des capacité de travail n'arrivent pas à prendre du temps et à incarner ce type de réduction, on peut envisager que les autres domaines socio-économiques aient encore plus de mal que nous à le réaliser, parce que, en fait, c'est un effort que d'envisager de réduire de 50% ses émissions de CO2. Donc, c'est un atelier participatif qui a trois objectifs distincts et complémentaires. Un objectif de sensibilisation qui rappelleront ce que font les fresqueurs et la fresque du climat, s'interroger sur nos pratiques, apprendre en jouant. Le deuxième, c'est de tester des scénarios de réduction de notre empreinte carbone. Alors, je vais insister sur le nôtre empreinte parce que, contrairement à d'autres ateliers, on a vocation et souhait en matière de vraiment consigner et de simuler les équipes virtuelles qui correspondent à nos cœurs de métier. Et vous serez invité, si vous le souhaitez, à constituer des équipes virtuelles qui correspondent à vos métiers. Alors, il y a un micro d'ouvert. Ça abrute un petit peu la discussion. Et puis, le troisième point, c'est élaborer un outil de pilotage. Donc, en réalisant un atelier une fois, on élabore des scénarios de réduction. Deux fois, on en a deux, trois, cinq, dix, vingt, cent. Au bout de 100 ateliers, c'est ce qu'on a réalisé jusqu'à présent, on commence à voir si statistiquement, on reproduit systématiquement les mêmes techniques de réduction ou pas, et si finalement, il va y avoir une possibilité d'avoir une règle générique applicable à tous ou s'il faut un respect des hétérogénéités des pratiques et qu'elle s'appuie plutôt sur des champs thématiques ou plutôt sur des zones géographiques, etc. Donc réellement, du fait de consigner les données, là c'est le physicien qui parle, les données lors des expériences, on peut arriver à bien qualifier comme outil de pilotage quels sont les points de réduction possibles.
Alors, c'est le premier transparent.
Hop.
On n'a rien raté.
Donc,
Félicia. Ouais, super.
Alors, tout est parti des accords de Paris, en fait, où suite aux accords de Paris, 7 ans plus tard, on peut considérer que la conscience est élargie, mais globalement, la trajectoire n'y est pas du tout. Pourquoi ? Parce que savoir ne suffit pas pour agir et que nous avons des récits narratifs multiples. Alors concrètement, ça a été souligné par un collègue dans une publication, One Earth. On a une Terre, One Earth, mais on envisage many futures, plusieurs futurs qui nous sont tous propres, et au final, on n'a aucune destination claire. Donc, là, je vais passer brièvement sur comment s'organise l'atelier. Vous aurez l'occasion de le voir si on ouvre l'interface. C'est dématérialisé. On peut faire aussi en matériel. C'est adapté à tout l'ESR, que ce soit les ITA, les techniciens ou des chercheurs et enseignants-chercheurs. Ça pourrait avoir vocation à partir dans le monde industriel ou autre. C'est par manque de moyens pour l'instant qu'on ne le fait pas. C'est des groupes de 6 joueurs plus un animateur plus un parrain de jeu. Par table. Et puis le matériel, c'est la base de documents références un peu classiques qu'on peut retrouver dans le GIEC, des outils de pédagogie à disposition en libre, comme des post-it numériques, des formulaires, et puis un plateau d'interface pour développer. Alors voilà le déroulé d'une session de Mater.
Ça commence. Non, mais là, pour l'instant, papa, il faut qu'il écoute. Je te rappelle, il travaille, papa. Papa, il y a une conférence, là, il faut qu'il écoute, d'accord ? Donc tu m'excuses, mon frère, tu
peux. Oui, papa, il faut qu'il coupe son micro aussi.
T'as 20%
de plus près tout à l'heure. Après, ouais, c'est coupé, micro, tac, 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 tac.
Là, c'est 3h15.
Hop, hop, hop.
Olivier, il faut que tu coupes ton micro.
Moi, j'aime assez ces temps parce qu'en fait, on se rend compte qu'on... En fait, vous allez voir que quelque part, on retrouve ces questions de faire le lien. On est citoyen du monde professionnel et personnel avant d'être enclavé dans une de ces deux sphères, je pense. Donc, vous voyez mon écran déroulé d'une session ou pas ?
Non.
Alors, je le repartage. Excusez-moi. Hop. Voilà. Donc, en fait, l'atelier commence par une phase de sensibilisation, un travail personnel où on fait son bilan carbone et où on a une petite introspection préliminaire à une phase de jeu de rôle où on va incarner deux personnages d'une équipe de recherche virtuelle ou d'une équipe fonctionnelle, pas forcément que de la recherche, puis une phase de débrief. Et à la fin, on peut avoir un temps de célébration ou de cérémonie pour partager, mettre en commun les réflexions. Alors, sur chacun des personnages qui constituent les équipes virtuelles, on s'appuie sur 3 socles, la reconnaissance professionnelle, le profil, on va dire plutôt la sensibilité écologique ou non des personnages, dans une gradation entre les gens qui n'ont que peu ou prou d'intérêt pour les changements et les limites planétaires, jusqu'à des gens très impliqués, anxieux ou militants. Et puis, des typologies d'émissions de CO2 avec un poids assez large sur les déplacements, mais pas que, du calcul numérique, des achats. Et je tiens à préciser dès maintenant que c'est la communauté qui fait évoluer ces éléments. Et si demain, Anne-Elle, vous criez une équipe virtuelle dans laquelle arrive, je ne sais pas, une équipe sur le coude d'une expérience en particulier, il est tout à fait possible de l'intégrer. Il n'y a pas de dogme autour des choix de typologie d'émission. Alors, un élément récapitulatif que j'ai présenté il y a un mois à la conférence des présidents d'université et conférence des grandes écoles, en haut, vous avez le déroulé de l'atelier. Juste en dessous, en fait, vous avez un dendrogramme. À chaque fois qu'il y a un chiffre, il consigne le fait qu'au sein d'un atelier, une personne donnée a proposé une alternative donnée. Disons, Nicolas, qui, au coin de sa table, décide d'aller en train à cette conférence à Paris plutôt qu'en avion. Donc ça, ça ferait 1 sur les 2141 qui correspondent à l'ensemble des alternatives qui ont été consignées jusqu'à présent dans les tables analysées. Et en fait, ces alternatives, évidemment, il y a des recoupements et il y a des possibilités de les mettre dans des grandes familles. Et globalement, on retrouve la vidéocommunication comme un point majeur de possibilité de réduction de nos émissions, sachant que les coûts de déplacement physique sont bien plus consommateurs d'énergie et donc de CO2 que les échanges numériques. Mais derrière, la proposition de transport public, dont le train, de mutualisation d'activités, de réduction ou d'annulation pure et simple, etc. Donc là, sur le dendrogramme, et puis autour du dendrogramme, ce que vous voyez inscrit, ce sont les champs lexicaux proposés par les participants au cours des sessions. On a eu souhait de garder vraiment la manière dont les gens ont exprimé le choix. Donc parfois, ça va être commun à tous. Et puis parfois, c'est Patrick qui va à ma place, donc un champ lexical unique pour quelque chose de donné. Je pense que c'est important d'avoir un petit peu tous ces étages pour comprendre à la fois les effets en itération, en fréquence, mais aussi le respect de la complexité de l'expression des alternatives. Et ce que vous avez en bas à droite, à l'issue de tous ces ateliers, ce sont les poids respectifs de réduction CO2 par champ de grandes alternatives. Donc la vidéocommunication s'en rend un. Le train, qui pourtant est en fréquence le deuxième plus important, et peu transformant ou moins transformant, simplement parce qu'on ne peut pas remplacer de grosses émissions de CO2 avec le train qui est limité à des distances raisonnables, même si on vise toute l'Europe en train, etc., etc. Donc, en fait, à l'issue de ces ateliers qu'on a fait sur une session massive et générique à tout l'ESR, on pense avoir déjà une vision assez claire des scénarios probables de réunion, de réduction, qui sont consignés dans ce diagramme de Sankey. Alors, vous avez sur la gauche une barre qui symbolise pour l'ensemble des ateliers réalisés les émissions de CO2 totales, sur lesquelles on rajoute, le cas échéant, des émissions supplémentaires lorsque les gens gagnent des projets ANR ou ERC au sein de la pratique virtuelle. Au milieu, c'est la même barre, mais éclatée par type d'activité carbonée, donc des déplacements pour aller à des conférences, pour aller à une expertise, pour aller sur du terrain, participer à un jury, des missions océanographiques, du calcul numérique intensif, etc. Et puis, à droite, en bas à droite, l'empreinte carbone finale à l'issue de tous ces ateliers. La bonne nouvelle, c'est que cette barre-là, elle fait 55 pour une barre à 100, donc 45% des émissions de CO2 sont virtuellement, bien sûr, réduites par un chemin de transformation de l'eau. Et donc, on n'est pas... On est sur un atelier qui offre des perspectives, non pas à 5, 10, 15, 20% de réduction, mais bien à peu près à l'échelle par rapport à l'accord de Paris. Alors après, reste à dévirtualiser et analyser toute cette chevelure de situation pour en comprendre les chemins transformants. Prenons l'exemple des conférences. Dans les ateliers plébiscités jusqu'à présent, 50% des conférences ayant donné lieu à des déplacements physiques perdurent. Et un quart sont transformés en visioconférence, une partie un peu moindre en annulation, une autre en mutualisation, une autre en relocalisation, etc. Donc, en fait, vous voyez qu'au travers de ce type de diagrammes. On peut consigner l'ensemble des réponses des uns et des autres dans la complexité des réponses co-construites sur les ateliers à 5 personnes, et deux, qualifier avec des directions d'établissement si oui ou non elles seraient applicables et dans quelle mesure les freins, qu'ils soient psychologiques, structurels, administratifs, institutionnels, vont mettre un délai dans l'application de ces propositions. Alors, pour finir, voici un. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que j'ai présenté ces résultats au président de l'Université Grenoble-Alpes le 20 juillet, juste après la session massive qui a eu lieu fin juin. Et on a agréé le fait de déployer l'atelier au sein de l'UGA sur l'année 2022, donc à l'échelle de l'établissement. Donc, l'objectif au printemps, c'est d'arriver à élargir les gens ayant participé à l'atelier sur les autres labos qui correspondent déjà aux équipes virtuelles à disposition, mais aussi de créer en parallèle de nouvelles équipes virtuelles qui correspondent à d'autres laboratoires de recherche comme le vôtre, mais aussi à d'autres cœurs de métier comme les composantes, les services centralisés, on pourrait envisager le CROUS, en fait tous les éléments qui constituent l'entièreté d'un établissement donné. Et le deuxième point important dans nos activités, c'est d'en faire un front de recherche. Tous les résultats que je vous ai présentés là, ils font l'objet d'un article que l'on va soumettre d'ici la fin du mois, et suite auquel on peut aller beaucoup plus loin, notamment en essayant d'examiner l'évolution de la réduction des inégalités ou pas en cours de partie, en examinant le poids clé des personnages en fonction de leur type de traits traits psychologiques sur la capacité des tables à transformer ou pas, etc. etc. Voilà un petit peu les éléments qui me semblent pouvoir ouvrir la discussion. Et merci pour votre écoute et vos questions.
Alors, le temps de s'activer, de réactiver le micro. On peut passer à une phase de questions. Il y en avait, il y en a déjà une là sur le chat que je soumets du coup. À moins que ce soit, je vois que c'est un message direct, donc je ne sais pas si ça a lieu à être une question partagée.
Je ne vois pas de message direct.
Ouais,
donc il y avait la question direct. Des micros, mais ça s'est traité.
Ça s'est traité, donc je pose la question. Personne qui m'écrit si c'est une question publique ou vas-y, Nejma.
Oui, bonjour. Je suis enseignante-chercheuse à l'université et je ne savais pas que l'université allait déployer ça, donc je suis ravie de l'apprendre. Et j'ai une question en fait sur la méthode. Quand tu dis que les conférences virtuelles sont moins consommatrices de CO2, c'est au regard du nombre de conférences virtuelles aujourd'hui, j'imagine. Si on suppose que toutes les conférences deviennent virtuelles, est-ce que ça reste toujours le cas? C'est-à-dire, est-ce qu'on aura, parce qu'on aura besoin de serveurs, de stockage, etc. Est-ce que ça reste toujours le cas que c'est beaucoup mieux que d'aller dans une conf en Espagne à côté ou en Europe en général? Ça, c'est ma première question.
Merci pour cette question. C'est une question assez courante, hein, parce qu'on parle beaucoup aussi du poids du numérique dans les activités. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, et je pense que l'atelier nous aide à répondre à ça, c'est qu'on est baigné dans un flux d'informations sont des fois contradictoires, mais en l'occurrence, le principal défaut des informations qu'on a, c'est qu'elles mélangent des petites échelles et des échelles mondiales. Je vais vous donner deux exemples très très clairs sur lesquels nos communautés ont des comportements très différents. C'est le coût CO2 de l'avion, qui à l'échelle mondiale vaut à peu près 3-4% aujourd'hui, et le coût CO2 du numérique, qui à l'échelle mondiale vaut aussi 3-4%. En fait, quand vous faites. Ça m'est arrivé dans différents temps d'échange avec des collègues d'entendre, c'est assez légitime, le coût des déplacements en avion, c'est 3-4% des émissions mondiales. Donc, même si demain il n'y avait plus aucun avion, ça réduirait que de 3-4% et honnêtement, ça ne vaut pas la peine de faire cet effort-là, eu égard à l'importance des activités scientifiques et du déploiement qu'on en donne et des enjeux pour la société. Et en fait, ça, c'est ce que je qualifierais d'un comportement d'aquaboniste, enfin, un mélange entre aquaboniste et I make the difference, qui sont deux profils qu'on retrouve dans la phase de jeu de rôle. Parce qu'en fait, si vous faites votre bilan carbone, non plus maintenant à l'échelle mondiale, mais à l'échelle du laboratoire, ce que vous avez fait, alors je sais que chez vous, Anel, il y a, le poids des achats est important, hein, mais globalement, je vais quand même vous montrer, ça n'enlève en rien à la discussion, voilà ce qui se passe dans notre labo hors achat, et les achats ne vont pas tout transformer non plus. Donc moi, je travaille à l'IGE. Vous avez ici le coût des déplacements, qu'ils soient en voiture, c'est la petite part là, je vais essayer de vous mettre, voilà, en voiture, en court et moyen courrier et en long courrier, sur le coût CO2 global hors achat. À côté de ça, nous, ce qui nous reste, c'est du calcul numérique de l'ordre de 2%, du déplacement de domicile-travail 5%, chambre froide, on a des carottes de glace qu'on stocke, ça correspond à 9%, et chauffage électricité. Et en fait, ça, vous retrouverez à peu près la même chose dans vos laboratoires, c'est-à-dire que ces deux coûts qui, à l'échelle mondiale, ont la même valeur, sont dans un cas très, très inégalement distribués. 90% de la population mondiale ne prend pas l'avion. Et quasiment, je pense que 90% de la population mondiale a des appareils numériques. Donc, en fait, derrière ce même chiffre, on vient masquer des cultures qui sont très, très différentes et, en l'occurrence, sur ces deux cas, assez inégales. Ça répond mollement à la question pour être...
Non, mais c'est une très bonne illustration, merci. Et j'avais une deuxième question. Tu as montré des évaluations côté recherche. Est-ce que côté formation, on a une évaluation de notre bilan carbone en termes de formation?
Alors, je vais répondre. On n'a pas réellement, pour l'instant, on n'a pas fait un déploiement de matière sur des cœurs de métier enseignants avec une promo étudiante. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler avec Pascal Huyg, qui est une collègue qui organise une école de terrain cet été. Et d'ailleurs, qui l'associe un peu, cette école de terrain, c'est sur la durabilité des écosystèmes de montagne. Et comme beaucoup d'écoles des terrains, en fait, 90% des participants prennent l'avion en long courrier pour venir. D'accord. Et donc là, on va travailler avec des étudiants pour créer des équipes virtuelles qui correspondent à cet écosystème-là et vérifier comment, à 5 ou 10 ans, on peut, est-ce qu'il faut faire des hubs régionaux avec le même template de cette école de terrain sur un site aux États-Unis, un site en Afrique, etc., pour trouver des voies de réduction ou pour faire le constat qu'on ne sait pas faire ce genre d'activité en non carboné.
D'accord. Et juste pour finir, je n'ai pas tout compris sur le jeu. L'idée, c'est de fonctionner en type approche par problème, c'est-à-dire tu mets des groupes ensemble et tu les laisses discuter d'une question précise, ou c'est plus complexe que ça et je n'ai pas tout saisi.
Merci. Non, c'est alors.
Ouais, ça rejoint une autre question, Nicolas, qui était comment se déroule le jeu. Si ouais. Tu veux faire un petit détour par la.
Bah, je vais vous montrer.
Voilà.
Ce sera plus simple. Hein. Et puis, je vais même plus que vous montrer, je vais vous donner le code pour ouvrir vous-même des fois des interfaces et essayer de jouer si vous avez envie plus tard. Enfin, jouer, de toucher du doigt ce qui peut être fait. Pendant que je le fais, je voudrais juste, parce que j'ai eu l'impression d'un peu contourner la question des flux numériques. En gros, alors d'une part, on a un lieu où on stocke toutes les transcriptions du coût d'une activité vers son coût carboné, et on s'appuie sur l'ADEME, on s'appuie sur la BO 1.5, donc cette grille de transcription, on l'a et on peut la réactualiser en fonction des infos scientifiques qu'on a sur les sujets. Et puis, pour donner une idée, en gros, 3 heures de visioconférence, comme on le fait là, ça serait à peu près l'équivalent de 500 mètres de voiture, d'une voiture, pour vous donner les ordres de grandeur. C'est-à-dire que si, tous autant qu'on est, on fait 30 km en cumulé pour faire cette même conférence en présentiel, ce sera beaucoup, beaucoup plus coûteux que la réaliser en numérique. Donc, il faut jongler entre les outils, prendre le plaisir du physique quand ça a sens et puis ne pas le prendre quand ça n'a pas de sens. Dans le laboratoire, la partie achat est très importante, oui. Il y a des labos où c'est très important et je donnerai à Sébastien les liens vers nos grilles de transcription et vous pourrez les consulter et nous faire part de vos retours si elles ne vous semblent pas bien. On s'appuie sur l'outil labo BGES. Tac, 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 la question. Ah oui, alors, Je vous donne un lien que vous pourrez utiliser après pour faire des essais de votre côté et que je vais ouvrir tout de suite et vous montrer comment ça se passe. Alors, il y a un micro qui est ouvert encore. Là, vous avez l'interface dans la partie jeu de rôle de l'atelier. Donc, si on démarre un atelier, alors voilà l'ensemble des tables qui sont disponibles. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous...
Oui, c'est un peu plus, ouais.
Attends, on n'entend pas bien. Alexandra, si tu te permets ton ouais. micro.
Ouais,
ouais
fais-moi ça tout de suite. Allez, à tête.
Alors, essayez de bien penser à éteindre vos micros. Ça fait deux, trois fois qu'on s'abrute la conversation. Donc là, est-ce que parmi les jeux virtuels disponibles que je vous présente là, qui sont peut-être un peu petits, biologie, climatologie, développement, environnement, dynamique de la Terre, environnement, géophysique, informatique, etc., techno et transition, est-ce qu'il y en a un que vous souhaiteriez voir en particulier?
Biologie.
Alors, biologie.
Et transition, mais allons.
Alors, je veux bien vous mettre techno parce que je viens de montrer biologie juste avant et ça changera. En l'occurrence, biologie, on est encore en train de bêta-tester quelques éléments parce qu'on intègre les achats, mais les jetons, de ce fait, ne sont pas super. Donc, voilà concrètement dans la phase de jeu de rôle comment ça se passe. Vous arrivez sur une interface qui représente les différents personnages. Je vais réduire un petit peu la taille. Non, je pense que c'est bon. Hop. Et sur cette interface, vous avez bien les 10 personnages. Pour chacun des personnages, un petit logo qui définit le trait de caractère incarné. Aussi, quelques éléments autour de qu'est-ce qu'il fait, quelle est son activité. Et au milieu, en gamme de couleurs, des jetons qui symbolisent proportionnellement aux émissions CO2 réelles, dont la surface est proportionnelle, donc les émissions de CO2 pour les différentes personnes de cette équipe. Donc, Techno et Transition part avec 57,120 kg CO2. Et concrètement, on va attaquer un jeu d'échange, de discussion, de négociation autour de ces émissions pour les uns les autres essayer de voir comment optimiser et supprimer des jetons en les basculant vers différentes alternatives. Alors, prenons l'exemple, admettons que Sébastien incarne un personnage, on va prendre, incarne Audrey, qui est de type colibri en comportement, donc chacun fait sa part. Et admettons que moi, je sois Corentin, aussi colibri, je pourrais dire, bon, bah, écoute, Audrey, en fait, chaque année, on va à la même conférence. Qui se passe à San Francisco, on continue à y aller en avion, est-ce que tu ne crois pas qu'on pourrait y aller un an sur deux, par exemple? Et alors Audrey, que me répond-elle? Donc Sébastien, si tu
incarnes... Elle active son micro, elle dit « Oh, quelle bonne idée !»
Alors admettons qu'elle soit d'accord, et donc auquel cas, on considère qu'on y va qu'une année sur deux, on divise chacun des jetons en deux, les surfaces sont respectées et ici on est un an sur deux et finalement on a consigné une alternative d'un type de mutualisation des activités et on a gagné pour la part de Corentin, on a réduit de 37% son bilan carbone et d'Autrey de 23% et au total le bilan carbone de cette table est à l'instant donné réduit de 5,3%. Voilà un petit peu pour illustrer comment s'effectuent les échanges. Alors, il y a une première phase sur laquelle on a une négociation qu'on qualifie de libre, où on va stimuler et favoriser les temps d'échange libres entre personnages en essayant de les laisser interférer entre eux. Puis, à mi-parcours, arrive un responsable d'équipe qui, à l'écoute de ce qui s'est fait, choisit une stratégie pour essayer de booster un petit peu ou d'organiser les voies de réduction en trouvant un juste équilibre entre du coercitif, de l'incitatif, et il est libre de l'organiser comme il le souhaite. Voilà. Donc, s'il y avait une chose à retenir, je dis souvent ça, mais moi, j'ai fait beaucoup de gymnastique, et avant de faire un salto arrière en compétition, au sol, eh ben, on s'entraîne pour le faire. Et du coup, s'entraîner, ça veut dire qu'on le fait avec des gens qui nous parlent, puis après on le fait sur des gros tapis en mousse, puis après on le fait sur un tapis fin, puis après on le fait dans la vraie vie. En fait, on peut voir l'interface comme une manière d'expérimenter, d'explorer des voies de réduction et de les multiplier pour voir celles qui nous semblent les plus pertinentes. Alors, Julien ?
Oui, tu m'entends ?
Très bien.
Oui, non, c'est un peu une question que je me pose souvent. Dans ton jeu, enfin, le point, c'est que quand on a un budget, on va toujours vouloir dépenser tout le budget qu'on a dans un labo. Je ne connais pas trop de chercheur qui va se dire si je ne dépense pas tout mon budget ou si je ne dépense pas tout l'argent que j'ai, ce n'est pas grave. Donc finalement, quand tu dis je fais un vol un an sur deux, par exemple, un vol international, et le vol que je ne fais pas, je l'économise, le problème, c'est que cet argent, il sera dépensé quand même en autre chose, probablement.
Oui, c'est une bonne question. Alors, en fait,
c'est une contrainte qui n'apparaît pas dans le jeu, ou alors, c'est-à-dire que si c'est dépensé en achat, en ordinateur, en ce que tu veux, le bilan, tu ne pourras pas vraiment dire que ça a été économisé. En fait, il y a des corrélations, il me semble, entre les différents postes. Tu ne peux pas juste mettre ça dans une case et dire que ça disparaît du bilan.
Il y a des corrélations. Alors, en fait, là où je te rejoins complètement, finalement, ça interroge plus largement, si je reprends un peu Jean Covici, le modèle économique qu'on a développé et sur lequel, à chaque fois qu'on fait une activité qui a un coût économique, financier, elle est associée à une émission de CO2. Après, autour de ça, donc, il y a quand même, selon les activités, des niveaux d'émissions qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Ça n'a pas le même coût, par exemple, d'embaucher quelqu'un, c'est ça qui me vient à l'esprit immédiatement, mais effectivement, c'est pas la même. Enfin, y a plusieurs possibilités. On pourrait imaginer que si j'ai un budget à 100 000 et que parce que je décide de ne plus acheter autant de matériel ou de ne plus autant me déplacer, je mets 50 000 euros de côté, que je puisse utiliser ces sous, par exemple, pour brainstormer en faisant appel à un prestataire extérieur qui me donne de la connaissance. Ou embaucher un postdoc, ou etc., etc. Donc, je pense je néglige pas du tout ce que tu dis sur le côté un peu inéluctable du fait que plus on est riche, plus on est aimé. Ça peut être aussi une voie, je brainstorm en même temps, hein, mais une voie considérée par un responsable de structure ou d'établissement que de se dire, finalement, les personnes au plus gros budget sont les plus émettrices. Est-ce qu'on ne trouve pas des mécanismes de redistribution qui permettent à ceux qui ont moins d'argent de faire leurs activités essentielles et ceux qui en ont beaucoup de freiner indirectement leur empreinte carbone? Bon, moi, je ne suis pas forcément friand de cette solution-là, mais elle serait envisageable. Alors, j'ai vu une question dans le chat où je vais répondre tout de suite. Sous quelle forme cela sera déployé à l'UGA? Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de construire. Ça prend un peu de temps dès qu'on rentre au niveau de la com de l'établissement et des décisions politiques et de rétro-planning établissement. Ce qui va être fait, c'est la proposition à tous ceux qui le souhaitent, toutes celles et ceux qui le souhaitent, de prendre part à l'atelier, et en leur expliquant qu'on souhaite l'utiliser comme une voie pour exprimer des scénarios de réduction, et que ces scénarios de réduction, ils viendront nourrir des diagrammes comme celui que vous avez vu en vue de mieux gérer le pilotage de la réduction. Voilà. Et concrètement, ça va impliquer de former des gens à l'animation d'ateliers et que des gens s'investissent dans l'animation de ces 10 ateliers. Voilà un petit peu.
Il y avait une remarque de Klaus sur les effets de corrélation de boucle de rétroaction. Je ne sais pas si tu veux compléter, Klaus.
J'ai eu des discussions avec des collègues cet été. Ils parlaient d'un jeu qu'ils avaient mis en place où il y a quelque part un village avec le maire, l'entrepreneur, l'entreprise, l'employeur, l'école, l'université et leur activité commerciale, l'empreinte carbone. Est-ce qu'il faut faire des éoliens? Est-ce qu'il faut faire un chauffage au bois? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et après, ça se déroule et à la fin, on regarde, est-ce que les gens ont gagné en qualité de vie? Est-ce qu'ils ont gagné en argent? Est-ce qu'ils ont gagné en connaissances, en compétences? Voilà. Est-ce qu'il y a un bilan comme ça, une rétroaction? Là, on promet des réductions de CO2, Mais quelles conséquences ça sur nous, sur ce qui est autour, sur la carrière, sur la science qu'on fait. Voilà.
Ouais, merci, c'est une super remarque et je serais ravi de mieux connaître l'atelier ou le jeu dont tu parles pour arriver un peu à appréhender ça. Alors, moi, au sein de l'IRD, puis je vois un peu ce qui se profile au niveau du GIA. Le simple fait, en fait, dès qu'on est sur des gros établissements, l'IRD est un peu plus petit, on est 2000 agents, 800 chercheurs, mais on est EPST aussi. Ce qui est important, c'est d'arriver, dès qu'on touche aux gouvernances des établissements, il y a, pour la plupart d'entre eux, enfin, pour plusieurs d'entre eux, disons, sincèrement, l'envie d'aller vers une transition, tout en essayant de s'assurer que dans l'écosystème des établissements de recherche, ils restent visibles, compétitifs, etc. Et il y a un manque flagrant de manière de piloter ces changements, simplement parce que les directeurs d'établissement sont conscients du fait qu'une fois qu'on a défini les 4-5 alternatives un peu courantes et génériques, si jamais on va frontalement proposer des réductions, c'est en général très difficile de les faire accepter. Et là, tout l'intérêt, je dirais, c'est d'arriver à bien faire du bottom-up, du top-down, et puis de mettre des itérations autour de ça, en disant, alors je vous donne un exemple concret sur l'IRD, que je connais bien. Moi, j'ai impliqué pas le président ni le VP recherche, mais le VP recherche pour la science de la durabilité, donc quelqu'un assez haut placé, qui a beaucoup aimé l'atelier, qu'on a compris les tenants et aboutissants, suite à quoi ils nous ont proposé de participer à l'écriture du contrat d'objectifs et de performance de l'établissement et où on présente ces pistes de réduction. Et typiquement, les discussions un peu phares autour de quelle est la place des conférences invitées sur les logiques de recrutement des nouveaux chargés de recherche, c'est des choses dont on sait, c'est des activités dont on sait qu'elles sont très carbonées, mais qu'elles sont aussi au cœur des dispositifs de recrutement aujourd'hui. Je pense que typiquement, ce type d'outil permet de mieux mettre en perspective les coûts-bénéfices et de bien montrer que, d'une part, les personnels plébiscitent une transition et ont des idées pour le faire, et d'autre part, qu'ils ont besoin, de la part des établissements, d'indicateurs pour accompagner ces envies de réduction. Donc, indicateur, c'est basculer certains des indicateurs carbonés vers d'autres qui sont plus frugaux. Un autre exemple que je peux vous montrer brièvement,
est-ce qu'il est ? Juste pour compléter, au CNE 28, on a eu cette réflexion, on a eu une AG puis plusieurs discussions autour des critères. Et justement, le critère qu'on fait inviter est en train de tomber. On a proposé qu'il n'existe plus pour les promotions hors classe et compagnie. Et donc, on est en train d'acter le changement de ces différents critères carbonés.
D'accord. Ben, voilà, je pense qu'il y a quand même plusieurs pistes qui existent, mais j'aimerais vous montrer une autre alternative. Parce que c'est d'autant plus simple de discuter autour des alternatives telles qu'elles ont été exprimées jusqu'à présent. Je trouve que c'est un bon support. Donc, vous voyez que dans les choix d'alternatives, il y en a une qui revient et qui finalement est la troisième en termes d'émissions de CO2 enlevées, c'est l'annulation pure et simple d'une activité. Et ça, c'est assez intéressant parce que, en fait, techniquement parlant, annuler une mission, c'est on ne peut plus simple puisqu'il suffit de ne pas vouloir la faire pour qu'elle ne se fasse pas. Et par ailleurs, ça a des intérêts énormes sur la charge administrative de je rédige un ordre de mission, je cherche mon billet, etc. etc. Ou quand j'achète un matériel. Sauf qu'aujourd'hui, si moi je vais voir mon établissement de recherche en lui disant cette activité-là, j'ai décidé sciemment de ne pas la faire parce que il me semble qu'elle a plus de vertus à ne pas être faite que faite en mettant un peu en perspective son empreinte carbone par rapport aux bénéfices de participer. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas tellement de voies d'accompagnement dans les indicateurs de recherche. Et ça, ça peut évoluer. Ce n'est pas très dur à faire évoluer. Mais ça, il faut le discuter avec les personnes. Donc, on travaille aussi avec les commissions d'évaluation des chercheurs pour leur présenter ce type de résultats et voir comment est-ce qu'on va favoriser les indicateurs qui conduisent vers les alternatives.
Il me semble que là, c'est presque une réponse indirecte. Si je reprends la dernière question de Nejma, que je te laisse découvrir sur le chat, un élément de réponse déjà.
Oui, ben, en fait, moi, ce qui est ressorti vraiment de la session massive, à la session massive, comme je vous le disais, on a eu quand même suffisamment de monde pour vérifier le caractère convergent et statistique des propositions. C'est-à-dire que, et c'est un peu ce que j'ai dit au président de l'UGA, je lui ai présenté ce graphe en lui disant, voilà, si demain vous décidiez de manière très directive, en top-down, de réaliser des chemins de réduction en choisissant des alternatives, je suis à peu près sûr que ce qui ressortira au niveau de l'UGA ne sera pas très différent de ça. Parce que statistiquement, quand on fait l'atelier de nombreuses fois, on voit qu'on converge sur les méthodes retenues pour la plupart des équipes. Et il y a des fois des hétérogénéités et on sait les qualifier. Mais par contre, si vous dites « bon ben voilà, j'ai trouvé un super travail » et les alternatives, c'est ça, 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 allez, on y va, le niveau d'acceptation va être très bas, parce que, et politiquement, il ne sera pas soutenable, tout simplement parce qu'il n'a pas été mûri, co-construit. Il y a des logiques de résistance au changement qui font que si vous construisez les chemins de transformation, vous êtes beaucoup plus prompt à les réaliser derrière. D'où l'importance et l'intérêt de multiplier des ateliers au sein de l'UGA ou au sein d'établissements. Je vous donne l'exemple de l'UGA, mais on pourrait prendre un autre établissement comme l'Institut DL pour arriver à dire, voilà, moi dans mon institut, enfin arriver à dire collectivement et en bottom-up, nous dans notre institut, voilà les scénarios qu'on sait faire émerger. Et après, avec la direction et les parties prenantes, comment est-ce qu'on on réalise ces chemins de dévirtualisation, en quelque sorte. Alors, remplacer des voyages courts par des séjours longue durée, est-ce que ce serait possible pour parents d'enfants de jeune âge? Ça, c'est des points qui sont typiquement déjà ressortis. Et du coup, voilà, tout l'intérêt, c'est d'arriver à qualifier la crédibilité des propositions dans la chevelure des alternatives pour arriver à voir celles. Alors, il y a peut-être un point important que je dois vous donner maintenant. C'est que au sein de l'atelier, je vais vous montrer l'article qu'on est en train de faire. Je vous demanderai de, pour l'instant, il n'est pas déposé, donc je vous demanderai de ne pas diffuser violemment autour de cet atelier. On est sur le point de le déposer, mais ce n'est pas encore fait. Alors, par contre, dedans, je vais pouvoir vous montrer un. Je ne sais pas ce que vous voyez là. Je suis un peu perdu.
Rien.
J'arrive. Tac, tac. J'essaye. Non, c'est pas ça. Excusez-moi, trop de fenêtres ouvertes. Voilà. Donc, alors, aussi, pour un petit peu vous donner la logique de construction, je vous ai dit que c'était collaboratif. Là, en noir, vous avez tous les gens qui ont été cofondateurs ou co-développeurs de l'atelier, principalement. Et puis, évidemment, pour acquérir ces données, il a fallu former des animateurs qui eux-mêmes ont animé des sessions. Et donc, ce qu'on s'est proposé de faire, dans la mesure où on n'aurait jamais eu toutes ces données sans ces ateliers, c'est de, une fois qu'on a eu la première trame de l'article avec deux stagiaires qui ont bossé avec moi au printemps-été, c'est de proposer à relecture et amélioration à tous les animateurs qui ont déjà animé une fois l'atelier. Donc, sur ce projet d'article, seront co-auteurs proposés. Ben, toutes les personnes qui l'ont fait. Ce qui est assez sympa dans la dynamique. Et on parlait d'indicateurs, on est tous sujets au poids, pas totalement illogique, des publications. Eh bien, les gens qui ont passé du temps pour se former et animer l'atelier, il y a de fortes chances qu'ils aient un article sur le sujet prochainement. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que au-delà des chemins de réduction, voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour les 85 tables, les pourcentages de réduction. Là, c'est la valeur au départ, et là, c'est en pourcentage entre moins 25 et moins 60. Pourcentage de réduction par table. et par type d'équipe virtuelle. Donc, vous voyez que c'est très, très divergent, très dispersé, mais que ce n'est pas jeu dépendant. Ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que les interactions entre personnes sont plus importantes. Vous voyez, par exemple, aussi que le bleu, c'est océan et climat, ou qualité de l'air, je ne sais plus, c'est la plus grande table et la plus petite table. Ça veut bien dire que les capacités de réduction dépendent plus des interactions entre personnes au sein de leur de la logique de jeu, mais dans la vraie vie de leur équipe de recherche, que de la contrainte imposée par l'équipe et le sujet d'étude. Et le deuxième point que je voulais vous montrer, qui me semble essentiel, en fait, à chaque fois qu'un jeton est déplacé, on minute le jeton, et ce qu'on s'est amusé à regarder, c'était, je vais vous montrer plutôt celle-ci, c'était le temps d'apparition de la première alternative. Et donc, en se disant que plus il est court, plus c'est spontané, et que plus c'est spontané, plus ça veut dire intuitivement que les gens y pensent et que c'est proche de choses qu'ils se verraient faire. Donc ça, c'est pour l'axe des X. Et pour l'axe des ordonnées, on a évalué le nombre de tables qui ont réalisé cette alternative. Ce serait une forme de popularité de l'alternative. Et donc, l'idée, c'est de se dire, si une alternative, elle est à la fois spontanée, c'est-à-dire qu'on la présente très vite, et populaire, elle est présentée sur la plupart des tables, alors c'est une alternative qu'on peut envisager comme la première à envisager dans la vraie vie. Et ce qui est très intéressant quand on fait ça, c'est qu'on retrouve ce jeton. Je pense qu'avec la COVID, avant la COVID, ça n'aurait pas été la même chose. Mais l'initiative la plus plébiscitée et la plus courante, c'est constitution d'une alternative pour une conférence ayant nécessité un long courrier vers soit de la visioconférence, soit une conférence plus proche, soit l'annulation, soit la mutualisation, comme on a vu dans l'exemple tout à l'heure. Donc là, en quelque sorte, vous avez, au-delà du chemin qui était présenté dans la chevelure, là, au-delà de ça, vous avez une dimension spontanéité, popularité qui est portée par ces deux graphes et qui permet d'accompagner, je reviens sur la logique d'outils de pilotage, d'accompagner est-ce que ce sera simple à mettre en œuvre ? Est-ce que ça va être plutôt confronté à des freins psychologiques, à des freins techniques, à des freins de visibilité institutionnelle, etc.
On va prendre quelques dernières questions. Tu en as une de Klaus,
ouais.
Sur le chat.
Oui, alors ouais, c'est vrai que les gens, je connais pas Neuchâtel, mais à l'EPFL, ils sont souvent assez en avance sur ces questions. Comment est pris en compte la qualité de la recherche? Alors, ce qu'on a fait pour l'instant, en tout cas, pas pour toutes les équipes virtuelles, mais pour celles qu'on a construites à l'IGE, dans mon labo, c'est qu'on a pris des vraies équipes sur leur bilan, leur vrai bilan carbone 2018, et qu'on a sous-échantillonné ces équipes en 10 personnages, en essayant de respecter, d'une part, la distribution des cœurs de métier au sein des 10 personnages. Donc, on n'allait pas prendre 10 doctorants ou 10 directeurs de recherche ou 10 ITA, mais un peu un patchwork de ce qu'est une vraie équipe, et la distribution des émissions de CO2 pour avoir à la fois des gros émetteurs et des faibles émetteurs, comme dans la vraie vie, et simuler l'inégalité de la vraie vie. Et après, on a du coup consigné manuellement les émissions de CO2 pour ces tableaux-là, et on a aussi rapporté, par rapport aux personnes qu'on connaît dans la vraie vie, leur niveau reconnu de qualité de recherche. Alors, c'est de manière un petit peu qualitative, en examinant le H-index, ou on met des étoiles de 3 à 5, 3 sur une activité modérée ou classique, et 5 sur un super chercheur. Pareil pour les services techniques. Et puis, je vais vous montrer, parce que justement, ce sera encore plus parlant, je vais vous montrer ce que ça donne pour une des équipes chez nous. Et c'est intéressant parce qu'on voit aussi se porter des dissonances très fortes entre, des fois, des émissions de CO2 et les discours qu'on porte. Et bon, faut pas forcément cliver autour de ces dissonances, il faut plutôt être en mesure de les considérer et puis de les faire évoluer. Donc, je vais vous montrer un jeu qui s'appelle Ressources en eau, qui implique une équipe dans laquelle, alors, tiens, je vous la laisse et puis je vous laisse découvrir et me dire un peu ce que vous pensez de cette équipe. Là, vous devez la voir sur l'écran. Ouais,
on voit bien. Ouais.
Donc, qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous voyez ce... Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent... Donc, le bilan carbone global de l'équipe est de 34 tonnes, 34 tonnes 20.
Donc, 17 pour Rome.
Et dont, en fait, si vous regardez, il y a 16 tonnes pour Ron. Donc là, vous avez la virtualisation d'une vraie équipe sur laquelle les émissions de CO2 sont très, très inégales. Et c'est assez intéressant, en l'occurrence, parce qu'il s'avère que Ron est une personne qui, dans la vraie vie, est impliquée dans le GIEC. Donc, connaît très bien ces questions de limites planétaires, etc. Donc, là, le but, ce n'est pas de stigmatiser, mais c'est de vous montrer qu'en fait, dans la vraie vie, on est porteur d'un champ de dissonance qui est associé au fait qu'on est dans un monde contraint en limite planétaire, mais qu'on ne se l'est pas appliqué tellement au niveau de nos outils et de nos pratiques, et que du coup, ces dissonances et inégalités, on les retrouve quand on fait l'atelier, et justement, ça permet de libérer un peu la parole. Vous imaginez bien que si vous attaquez... Ah, il n'y a pas de mode daltonien, je suis désolé, mais on l'a déjà noté, ça. Si vous attaquez deux buts en blanc dans une réunion d'équipe, vous posez sur la table les émissions de CO2 et vous dites « bon, ben maintenant, on fait moitié moins », ça va être assez rude. Et c'est tout l'intérêt, à mon avis, de commencer par le tester de manière sécurisée en incarnant d'autres personnages. Et puis là, la proposition juste après, une fois que dans un groupe donné de personnes de la vraie vie, on a déjà fait l'atelier, c'est de se dire, bon, ben maintenant, on l'utilise comme outil de programmation pour l'année qui vient. Donc, on pourrait dire, cette équipe-là prévoit sur 2023, Ron, qu'est-ce que tu as prévu? Moi, j'ai prévu de faire ça, ça, ça. Alors, ce ne serait pas Ron, puisque c'est un vrai personnage, enfin, une vraie personne dans la vraie vie. Et on pourrait utiliser l'interface en mode programmatique, exactement avec la même logique de visualisation des forces en présence, des émissions de CO2, des raisons des émissions, et puis du coup, l'utiliser de manière plus ergonomique pour définir une trajectoire de réduction. Alors, est-ce que ces dissonances sont générationnelles ou pas? En fait, je ne peux pas répondre à ça pour l'instant parce qu'on n'a pas analysé, on n'a pas des gens en sciences sociales. Justement, on est en train d'essayer d'obtenir des financements pour avoir des doctorants et post-docs sur ces questions d'analyse un peu SHS, résistance au changement.
Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'on touche à la fin. On va épuiser Nicolas plus que ça. Après 7 heures non-stop de présentation. Ok, ben dans ce cas-là, merci à tous et toutes. N'hésitez pas à l'écrire, on va dire à moi, qui suis en train d'être formé justement sur cet atelier, pas plus tard que ce matin. N'hésitez pas à l'écrire si ça peut vous intéresser d'être animateur, animatrice, parce qu'effectivement, si on veut un jour le déployer au sein d'une aile, il faudra une petite équipe d'animatrices. Et c'est 2 fois 3 heures de formation. Voilà, merci encore Nicolas.
Merci à vous.
Les mots de la fin.
Bah, peut-être juste dire, dans les 2 fois 3 heures, on participe aussi à un atelier. Et donc, on fait d'une pierre deux coups, on peut réaliser l'atelier, le vivre et puis voir les techniques d'animation. Je pense que ça va devenir de plus en plus simple d'animer parce qu'on essaye de bosser à l'ergonomie. Et je dirais que l'étape d'après, c'est de construire des équipes virtuelles qui collent à vos environnements de travail. On a discuté de ça juste à 13h avec l'INSERM. Va essayer de faire des équipes virtuelles avec des animaleries, avec du personnel hospitalier. Et je ne doute pas que Néel a aussi des spécificités qui mériteraient d'avoir une équipe virtuelle. Et puis, ça fait un effet... c'est toujours joyeux quand on a un livrable. Donc, une équipe virtuelle Néel serait intégrée dès qu'elle serait prête dans la plateforme. Et on peut faire valoir le fait que l'Institut s'investit dans ces techniques de transition. Voilà. Et merci pour vos questions et Bah, c'est vrai que si vous avez un peu de doc, je pense notamment sur le jeu sérieux dont parlait Klaus, bah, je suis preneur. Et si vous avez souhait de passer du temps autour de ça, vous êtes les bienvenus. ES. Ouais. À bientôt, au plaisir.
Allez, j'arrête l'enregistrement. Merci beaucoup à toutes.